France Info.
France Info, les informés, Guillaume Cahour.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, les informés jusqu'à 21h, comme tous les soirs, même en été. Avec au sommaire aujourd'hui des informés, trois débats autour de la loi de confiance de la vie politique. Dans la confusion, les coupes budgétaires, Emmanuel Macron casse-t-il son image de réformateur? Et puis le nouveau défi d'Emmanuel Macron, le défi du président de la République, sortir la Libye du chaos. Avec nos invités, Florence Berthoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement de Paris, conseillère régionale d'Île-de-France. Vincent Trémollet, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Rédacteur en chef des pages débat opinion du Figaro, Jonathan Boucher. Chef Petersen, chef du service France de Libération.
Enfin.
Et avec Jackie Isabello, qui est communicant pour l'agence Coriolink, que vous avez cofondée. Bienvenue à tous les quatre.
Bonsoir Guillaume.
Les députés veulent donc redorer l'image de la politique. Disons que dans la forme, on voit peu de changements hein, dans les débats, malgré le renouvellement politique. L'hémicycle reste bruyant, parfois brouillon. C'est le propre des discussions acharnées. Mais là, ça en a agacé plus d'un. Vous allez l'entendre avec André Chassaigne chez les communistes et Philippe Gosselin chez les Républicains.
Moi, je crois que c'est une chose incroyable. Non seulement on a affaire à un rouleau compresseur où l'opposition ne peut pas s'exprimer correctement, aller jusqu'au vote de ce qu'il propose, mais en plus de ça, il y a une confusion qui, à mon avis, est une confusion entretenue.
La phase d'apprentissage, ça va bien. Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi. Donc, il va falloir peut-être appliquer le règlement.
Alors, ce qu'on entend, c'est du brouhaha. Est-ce que c'est finalement comme avant à l'Assemblée nationale ou c'est un peu différent sur la forme?
C'est quand même un peu différent. C'est-à-dire que ce à quoi on a assisté cet après-midi, notamment ces vice-présidentes qui demandaient conseil avant de pouvoir dire ce qu'il fallait faire, est-ce que le vote était fait, est-ce que le vote.
Qu'elles demandaient conseil à qui?
Il y a une force de souffleur. Une sorte de souffleur comme on en voit au théâtre. Bon, ça, c'était assez nouveau. Il y a eu aussi un moment assez.
Avant, on voyait pas ça.
Ben non, il y avait quand même une maîtrise, de la fabrique de la loi. Et puis, il y a eu un moment très, très intéressant. C'est la prise de parole de Delphine Batho. Parce que Delphine Batho incarne, selon Emmanuel Macron, la politique qui ne doit plus être faite, puisqu'elle a été attachée parlementaire, puis élue régionale, puis députée, puis ministre. Bon, et Delphine Batho a pris la parole. Vous imaginez que je ne suis pas un soutien de Delphine Batho, mais sa prise de parole était tout à fait remarquable et précise. Et elle a recadré la vice-présidente en lui expliquant comment on faisait la loi et quelles étaient les règles à l'Assemblée nationale. Ça a duré 3 minutes, c'était parfait. Et donc, on a vu que les anciens usages avaient encore certains mérites, tant les nouveaux étaient désordonnés. On a quand même vu Jean-Louis Bourlange, élu de La République En Marche, quitter l'hémicycle parce qu'il devait prendre la parole et que la vice-présidente du même parti ne lui a pas donné. Et il a été applaudi par l'opposition. Donc, tout ça est assez brouillon. Bon, c'est pas non plus un événement.
Formellement, il y a la nature des débats et il y a faire la loi. C'est-à-dire, quand on entend Philippe Gosselin, qui a fait de l'obstruction parlementaire pendant le mariage pour tous, de façon éhontée, faire des grandes leçons sur ici, on fait la loi, comme si c'était. Enfin, on parle franchement du respect du règlement et de la façon dont les débats.
C'est quoi? C'est du bizutage?
Non, mais évidemment, il y a. C'est-à-dire que la phase d'apprentissage, elle agace effectivement les cumulards ou ceux qui connaissent depuis très longtemps ces us et coutumes. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu? Je sais pas. C'est sûr que ça fait des images qui sont plutôt des images un peu d'amateurisme. En tout cas, ça apparaît comme tel. On sait très bien que la loi se fait pas dans les débats, la discussion générale et les éléments qui se peuvent en être transmis. Donc la loi, elle est faite en commission les 3/4 du temps. Ouais. Et l'administration de l'Assemblée, elle est aussi là, non pas pour avoir des jolies tenues d'huissier ou avoir des jolis sièges derrière la présidence. C'est-à-dire que c'est une organisation, c'est une institution qui fonctionne, qui accueille des nouveaux élus. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. On sait très bien que dans ces élus, ils n'ont pas l'expérience du travail parlementaire. C'est-à-dire le découvrir, ça fait évidemment des images singulières. Je pense pas que ça fasse sens sur l'amateurisme du pouvoir.
Quoi. Vous pouvez le voir, hein, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez commenter sur le hashtag Les Informés, bien évidemment tous les débats, mais vous pouvez voir sur les réseaux sociaux quelques moments, quelques passages à vide. En effet,
clairement, il y a eu des moments de flottement qui sont inédits, quoi. Entre ça et les obstructions d'un Jacques Millard ou d'un, enfin, je sais pas entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné, je suis pas sûr qu'il faille absolument être nostalgique des professionnels de l'Assemblée nationale.
Florence Berthoux, est-ce que finalement c'est pas le propre d'un hémicycle, finalement, au Conseil de Paris? C'est aussi le bazar?
Non, on peut pas dire ça.
Non?
Il y a deux choses. D'abord, il y a la maîtrise des conditions d'élaboration de la loi. Il faut pas laisser entendre qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est très compliqué de faire une loi. Le règlement des assemblées, je le sais, j'ai été directrice du cabinet du ministre des Relations avec le Parlement, conseillère parlementaire d'un Premier ministre. C'est une véritable horlogerie. Vous pouvez pas prendre la parole comme vous voulez. Il y a un temps qui est donné. Il faut maîtriser le règlement. Et force est de constater, vous pouvez être d'ailleurs intelligent, de droite ou de gauche, le sujet n'est pas là. On voit bien que là, on a quand même, on est dans un état énorme d'impréparation. Et il faut de la formation. On peut pas s'improviser. On peut pas s'improviser maîtrisant et la Constitution, et les lois et les règlements, et surtout le règlement des assemblées. Donc il n'est pas totalement, je dirais, inhabituel que, par exemple, le secrétaire général de l'Assemblée nationale ou du Sénat donne des conseils, ou le directeur de la séance ou la directrice de la séance, ça c'est normal. Par contre, qu'on ait des présidents de séance ou des vice-présidents de séance qui, effectivement, ne respectent pas le règlement parce qu'ils ne maîtrisent pas et ça vraiment plus à quel soin se vouer, ça c'est très enquiquinant. Et puis il y a une deuxième chose qui n'est pas de même nature. Vous disiez le brouhaha, mais le brouhaha n'a rien à voir avec la maîtrise ou la non-maîtrise du règlement. Le brouhaha, ça peut être l'obstruction, ça peut être le fait de déposer des centaines d'amendements, ça c'est tout à fait autre chose. Sauf que là, on a conjonction de deux choses. On a objectivement des nouveaux vice-présidents qui, ou présidents d'ailleurs de commission, qui ne maîtrisent pas totalement, c'est pas les yeux, c'est le règlement.
C'est normal.
Oui, mais c'est très. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai été très longuement, c'est les hasards de la vie, encore une fois, dans des cabinets ministériels. J'ai rarement vu un état d'impréparation pareil. Donc, il va falloir que ça se corrige, bien sûr.
En revanche, des lois préparées par des professionnels retoquées par le Conseil constitutionnel, on en a vu beaucoup.
Bien sûr.
Et Jean-Louis Debré s'est plusieurs fois ému de l'incapacité ou de la mauvaise maîtrise des députés actuels dans l'écriture de la loi. Les sénateurs s'en émeuvent aussi régulièrement en parlant de leurs collègues des députés.
Il y a plusieurs choses Jacques Isabello, qu'on a évoquées et qui sont importantes.
Les gens ont l'impression que le parlementaire, c'est un professionnel de la loi. C'est pas vrai. Le parlementaire, c'est quelqu'un qui fixe un cap politique. Alors après, vous avez des parlementaires qui ont été avocats, qui ont une formation juridique très importante. Mais au sein des assemblées, vous avez des administrateurs, c'est un peu comme des énarques, ils ont leurs écoles particulières qui sont indépendantes, et les types et les nanas sont remarquables. Et c'est eux qui vont vous rédiger un amendement. Alors, ils peuvent savoir le faire, mais il ne faut pas confondre plusieurs choses.
Ils ne dirigent pas la séance.
Le nouveau bateau, le nouvel instrument de musique qu'ils sont en train d'apprendre à gérer, le règlement des assemblées, la place des conseillers et puis le rôle politique du parlementaire. Voilà.
Ça, le parlementaire, pour la forme.
C'est pas un prof de droit constitutionnel à la faculté.
Ça, c'est pour la forme des débats. Le fond, on va y revenir dans un instant. Est-ce que la majorité revoit ses ambitions à la baisse? Dans quelques secondes, la suite des informés avec vous quatre. Il est 20h10. Le rappel de l'actualité, Manuel Langlois.
Près de 4000 hectares partis en fumée, c'est le bilan des incendies en Corse et dans le sud-est. Les pompiers continuent ce soir de lutter contre les feux attisés par des vents violents. La situation reste délicate, notamment dans le Var où deux incendies sont en cours, à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin. L'Italie envoie un Canadair en renfort. Le ministre de l'Intérieur, lui, est en Haute-Corse. Gérard Collomb, qui a rendu hommage au courage et au professionnalisme des 4000 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile déployés sur ces incendies depuis plusieurs jours. Dans l'actualité également, le chômage qui repart à la baisse en France. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 0,3%, soit un recul de 10 900 inscrits de moins à Pôle emploi. En pleine polémique sur la baisse des aides au logement, le gouvernement enfonce le clou en dénonçant un système pervers. Il annonce pour l'automne une réforme globale du système. Il affirme que c'est le contrat le plus important de son histoire. L'éditeur de logiciels industriels Dassault Systèmes a conclu un accord avec Boeing afin de moderniser toute la chaîne de production de l'avionneur américain. Et puis l'humanité vivra à crédit à partir du 2 août et jusqu'au 31 décembre prochain. Elle aura consommé ce jour-là la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an, affirme l'ONG WWF.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Et avec Florence Berthoud, Vincent Trémollet, Jonathan Boucher-Peterson et Jackie Isabello autour de la table ce soir pour les informés de France Info. Le projet de loi sur la confiance de la vie publique. Alors on a parlé de la forme avec ces débats mouvementés, avec ce bizutage des petits nouveaux de l'Assemblée. Maintenant, parlons du fond, parce que finalement la question qu'on se pose, c'est est-ce que la majorité est en train d'adapter son projet de loi, de le revoir peut-être à la baisse avec moins d'ambition. On va parler d'abord peut-être, si vous le voulez bien, de cette question du casier judiciaire qui a fait débat à la fois en commission et puis à la fois dans l'hémicycle. Est-ce que oui ou non, un Français qui se présente aux élections peut se présenter avec un casier judiciaire si ce casier n'est pas vierge? La majorité a décidé de revenir sur cette volonté. C'est quoi? C'est un aveu d'échec?
Non, je crois que c'est plutôt un ajuste pour le coup, un ajuste de professionnalisme ou une nécessité en tout cas de corriger une disposition qui était jugée risquée sur le. Alors, je crois qu'il y avait deux éléments. Ouais. Il y avait le fait que c'était fragile juridiquement et surtout sur le fait qu'il y a un certain nombre de condamnations qui sont inscrites au casier et qui après disparaissent du casier. Et visiblement, il a été jugé. Bon, après, il y aura peut-être une précision technique, mais qu'il a. En tout cas, sur la. Moi, je pense pas que c'est un recul, parce qu'ils ont avancé sur la question de l'inéligibilité automatique sur un certain nombre de.
Oui, mais il y a une foule de métiers, finalement, où on ne peut pas exercer. On demande un casier vierge, on ne peut pas l'exercer, et ça pose aucun problème de constitutionnalité, non ?
Je crois, si vous permettez, que ce n'était pas tout à fait ça.
Allez-y.
Je ne suis pas là forcément pour défendre le projet de loi, mais là, en l'espèce, il y a, je crois, objectivement, un problème constitutionnel. Si votre inéligibilité est automatique, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Ça devient contraire au principe d'individualisation des peines, et ce principe d'individualisation des peines, il est un principe à valeur constitutionnelle. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez une condamnation, vous ne pourrez pas être inéligible, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir automaticité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mon collègue et ami Bournazel, qui est député LR constructif du 18e arrondissement, et mon collègue au Conseil de Paris. Il a déposé un amendement très intéressant qui consiste à dire, si on a été condamné pour propos homophobes, incitation à la haine raciale, on pourra être inéligible pendant 10 ans. Je pense en l'espèce que cet amendement va pouvoir suivre sa vie, et il était très intéressant. Ce qui posait problème là, c'est un problème effectivement de nature constitutionnelle.
Vincent Trémollet.
En fait, c'est un problème de nature démocratique. C'est-à-dire que la démocratie est quand même fondée sur le fait que les gens votent pour qui ils veulent. Donc à partir du moment où le juge décide...
Y compris pour quelqu'un
qui a un casier judiciaire. Ça ne veut pas dire que qui veut peut se présenter.
Non, mais à partir du moment où le juge disqualifie quelqu'un, c'est quelque chose que moi je trouve parfaitement discutable. Mais pour aller plus en profondeur...
Les citoyens qui perdent leur droit civique, en tout cas.
Là, c'est constitutionnel.
Je pense qu'il y a un problème de fond avec cette loi de moralisation, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher... à des vertus privées chez les hommes politiques quand on leur demande d'avoir une influence publique concrète pour ce qu'on appelait autrefois le bien commun. Et donc moi je suis tout à fait étranger à quoi nous assistons, parce que je pense qu'on va aller vers une ère du soupçon qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont déjà dénoncé quand François Bayrou a démissionné, mais qui va continuer de se perpétuer. Parce que si
ça va être contre-productif.
Ben oui, parce que si vous voulez, on prend des décisions comme celle dont vient de parler Madame Berthoud, par exemple le verrou de Bercy, on n'y touche pas.
Pour le verrou de Bercy, non,
mais ça c'est un sujet.
Ouais. C'est pourquoi... décision, pardonnez-moi, je rappelais juste.
Non, mais c'est pas. Je
oui, je suis assez d'accord avec votre avoir... analyse. Je
juste
dis par
pour
ailleurs,
préciser pour ceux être... qui nous écoutent, voilà. Le verrou de Bercy, parce que c'est un peu technique, c'est un dispositif qui réserve le à l'administration fiscale le monopole des poursuites en matière de fraude fiscale.
Voilà.
Et ça ne changera pas.
Ça ne changera
alors
pas.
Que les Insoumis et les Républicains, eux, voulaient faire sauter ce verrou.
Et donc, on pourra considérer, et on considérera forcément, que la loi qui va être votée à la fin sera inéquitable.
Jacques Isabello, vous pensez que cette loi sera contre-productive, vous qui êtes communicant ?
Mais naturellement, on a tendance à se dire c'est louable de vouloir porter ce genre de législation. Moi, je voudrais juste rappeler, il y a un bouquin qui a été écrit il y a quelques temps déjà, qui s'appelle « La fable des abeilles de Mandeville ». C'est rapidement l'histoire, c'est de dire c'est une ruche qui fonctionnait plutôt pas mal avec pas mal de gris foncé, gris clair. Mmh. Et puis arrive quelqu'un qui introduit du blanc et du noir. Et là, il y a tout est carré, tout doit être limpide. Et finalement... tout se désarticule et plus rien ne fonctionne. Cette loi sur le principe et toute cette tendance, c'est très bien. Mais on s'aperçoit qu'on est en train de jeter une opprobre maximale sur l'ensemble de gens qui font un métier qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on passe notre temps non pas à rappeler qu'il peut y avoir des gens qui font des choses contestables et que c'est une minorité. Là, depuis 5-6 mois, on est obsédé, quand je dis 5-6 mois, c'est beaucoup plus, on est obsédé par le fait de mettre l'accent sur... tous les élus sont sans doute un petit peu pourris et il faut essayer de déterminer qui ne le sont pas. Et moi, je trouve ça extrêmement préoccupant.
Mais l'histoire de cette loi est quand même très
démocratie.
C'est pas loi de les passer au
tapis. Elle est très indéfendable. Ma position est tout à fait indéfendable. Ouais. Ce que je veux dire, c'est c'est admis. Et en termes de communication, parce que c'était la question et c'est juste mon expertise, c'est on retourne un peu la charge de la preuve et on va se demander à la fin s'il reste quelques anneaux bien blancs parce que tous
sont présumés.
Les règles sont tellement floues et tellement souples. Pour le coup, ce que dit la garde des Sceaux n'est pas idiot. C'est-à-dire de dire que justement, on va fixer des règles beaucoup plus carrées, beaucoup plus sévères, pour que justement, il n'y ait pas une majorité de parlementaires ou d'élus au sens large, qui sont des gens tout à fait vertueux et qui subissent la mise au pilori pour le comportement de quelques autres. On voit des images défiler depuis tout à l'heure de Patrick Balkany. Je sais qu'il a été régulièrement blanchi par ses électeurs. Moi, je ne trouve pas que ce soit suffisant à l'aune de ce qu'on peut attendre de l'exemplarité d'un parlementaire.
C'est évident.
Enfin, il faut des règles pour le coup de droit.
Vous êtes obligé de reconnaître que ces règles ont été installées, imaginées par François Bayrou et Emmanuel Macron à la suite de l'affaire Fillon, que celui qui devait défendre ces règles a dû démissionner en devançant même l'apparition de ces règles, et que le président de groupe qui doit voter ces règles à la majorité a dû démissionner du gouvernement.
C'est des sujets qu'on a évoqués ici régulièrement pour dire que l'exfiltration de Richard Ferrand n'était pas quelque chose de vertueux.
On se trouve quand même devant un processus qui dépasse ceux qui en ont profité. Je ne dis pas qu'ils l'ont enclenché, ils en ont profité.
Demander des justificatifs quand on verse 6000 euros par mois à un député, honnêtement, il est où le scandale?
Quand Édouard Philippe dit maintenant c'est terminé l'ère du soupçon, quand Emmanuel Macron dit maintenant c'est terminé, c'est pas lui qui décide. Comme on disait à la Révolution, que celui qui a encore fait la guillotine ne sait pas comment l'arrêter.
Il y a 80% des Français qui considèrent que les élus œuvrent d'abord pour leur intérêt personnel.
Cette loi du soupçon est installée et va être du quinquennat.
Moi, je suis très étonnée, vous voyez, du débat, parce que ici nous sommes quand même censés être un peu éclairés et nous mettons
informés
et nous mettons dans le même panier des mesures qui font débat. Comme, par exemple, le fait de revenir sur cette IRFM.
Cette loi comme machine à la machine de l'ère du soupçon.
Ça c'est un autre sujet. Deux sujets. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur le terrain de la vertu pour vérifier des choses? Oui. Donner des justificatifs. Tous mes collègues ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je considère que il faut effectivement l'équivalent d'une indemnité de représentation, sinon il y a que les riches qui peuvent faire de la politique, excusez-moi, que l'on donne des justificatives, ça me paraît normal. Pour autant, le gouvernement a voulu donner le sentiment qu'il avait plus blanc que blanc. Et il a annoncé cette affaire du casier judiciaire. Mais moi, je me permets de vous rappeler une chose, c'est qu'on pourrait appliquer la loi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des condamnations pénales, je vous le rappelle, qui sont assortis de peines d'inéligibilité. Ça existe déjà. Il suffirait d'appliquer la loi.
On peut choisir de se focaliser sur tel ou tel point. Il y a formellement dans
cette
loi.
C'est pas la même chose.
On va se focaliser dans un instant. Ça n'existe pas. C'est un vrai sujet.
On va se focaliser dans un instant sur la réserve parlementaire.
Il y a 1000 sujets qui doivent être traités et qui ne sont pas des choses que la loi permet.
Alors moi, j'ai encore deux sujets. Il y a 1000 sujets. On est d'accord. Mais là, il y en a encore deux qui vont arriver. Dans un instant, la réserve parlementaire, justement, qui est aussi en débat dans ce projet de loi. Il est 20h20. Vous êtes sur France Info. Le rappel de l'actualité, Manuel Langlois.
Les incendies dans le sud-est et en Corse continuent. Près de 4000 hectares déjà détruits, des feux attisés par des vents violents. Dans le Luberon, l'incendie de la Bastidonne a déjà parcouru 800 hectares de végétation. Les flammes ont fait 5 blessés parmi les pompiers, dont 2 gravement brûlés au visage et aux mains. Le ministre d'Intérieur Gérard Collomb est en Haute-Corse ce soir. Après une hausse en mai, le nombre de chômeurs est reparti en légère baisse en juin, moins 10 900, ce qui fait moins 0,3%. Il y avait le mois dernier en France métropolitaine 3 480 000 demandeurs d'emploi. L'agence du médicament divise par 3 la dose maximale de baclofène pouvant être administrée pour traiter l'alcoolisme, compte tenu du risque accru d'hospitalisation et de décès lié à l'utilisation à haute dose de ce médicament, explique l'agence. Emmanuel Macron salue leur courage historique. Les deux frères ennemis libyens, le chef du gouvernement de Tripoli et l'homme fort de l'Est de la Libye, se sont mis d'accord aujourd'hui sur des élections au printemps au cours d'une rencontre à Saint-Cloud, près de Paris, sous l'égide du président français. Et puis la Grèce d'Alexis Tsipras réussit son retour sur les marchés avec une obligation à 5 ans. Athènes a levé 3 milliards d'euros avec un taux de rendement inférieur à celui obtenu par le précédent gouvernement.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
La suite des informés avec ce débat qui a lieu ici aussi sur le plateau de France Info avec Florence Berthoud pour Les Républicains, Vincent Trémollet, rédacteur en chef des pages débat opinion du Figaro, Jonathan Boucher-Petersen de Libération et Jackie Isabello, communicant pour Corio Link, avec ce projet de loi sur la confiance de la vie publique. Et on va parler de cette réserve parlementaire. En quelque sorte, c'est une cagnotte que peuvent utiliser les parlementaires pour financer un certain nombre d'initiatives locales. La ministre de la justice, elle, Nicole Belloubet, en a parlé dans l'hémicycle. Et les Républicains, eux, ont fixé leur ligne rouge. Ils ne souhaitent pas cette suppression de la réserve parlementaire. Par exemple, Guillaume Pelletier, écoutez.
La suppression de la réserve parlementaire est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que c'était un moyen extraordinaire, surtout pour nous, les députés du monde rural, d'aider, d'accompagner des dizaines et des dizaines de projets dans nos territoires. Les dotations de l'État, à proportion, sont plus faibles qu'ailleurs. Et ce moyen était indispensable. Aujourd'hui, la volonté d'Emmanuel Macron est de déconnecter le monde politique de nos racines et du monde rural. C'est le président des métropoles.
Est-ce qu'on peut encore, en 2017, défendre une réserve parlementaire?
Il faut savoir à quoi elle sert. Nous sommes dans un État jacobin. Nous sommes dans un État jacobin. Je vois qu'on fait des comparaisons avec d'autres pays où, effectivement, la réserve n'existe pas. Parce que, à un moment donné, il y a dans les modalités d'attribution de cette réserve insuffisamment de transparence. Parce qu'il y a eu des projets qui ont été soutenus et qui, effectivement, affleurent le clientélisme. On supprime un système, ce que dit
Guillaume Pelletier,
est très vrai.
Sur LCI.
Un système qui aide aussi et surtout les plus petits. Je vais vous donner deux exemples très concrets.
Oui,
parce que je les ai vécu. Mais oui, il faut comprendre
Allez-y.
Ce que c'est la réserve.
Oui.
La cagnotte, ça ne veut rien dire. La cagnotte, ça donne le sentiment que c'est de l'argent pour soi. Vous voulez aider une petite commune qui n'arrive pas à obtenir des subventions de la région, des subventions de l'État, pour refaire, par exemple, un rond-point qui est très accidentogène. Eh bien, la réserve bien orientée va pouvoir permettre à cette commune, pour 20 000, 30 000 euros, de faire ça. Elle veut faire le toit d'un édifice culturel.
Mais est-ce que c'est aux députés de décider ça? Est-ce que c'est aux députés de...
Il faut que ce soit transparent. Ils ne décident pas. Ça fait partie des relations locales.
Jacques Isabello.
En 97, ça devait être 98, Jospin supprime les fonds secrets. C'était de l'argent liquide. Il l'a supprimé.
Et
c'était
qui servait à autre chose.
Légitime. C'était scandaleux de payer des collaborateurs un peu partout.
Bien
et
je n'entrerai
pas dans les détails en liquide. Mais cette réserve parlementaire, elle servait certes parfois à faire de la politique politicienne, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'à vouloir être plus vertueux que la vertu ultime, et bien voilà, on la supprime. Alors que on a des institutions de contrôle, on a la Cour des comptes, on peut tout à fait tracer cet argent. On sait très bien que ça aide des petites associations. Alors, traçons, mesurons, et puis surtout supprimons les comportements légitimes. Mais rayer d'un trait de plume tout simplement ces fonds-là. Non. Après, vous disiez, est-ce que c'est aux parlementaires? Ben, d'une certaine manière, oui, parce que ce sont des dispositifs qui sont un peu gris clair, gris foncé, qui vous permettent à un moment de très vite pouvoir abonder dans des situations qu'on pourrait appeler dans les appels d'offres publics d'urgence. Donc voilà, c'est un peu dommage comme ça de le supprimer aussi violemment.
C'est difficile, moi.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais pour le coup, je pense qu'on peut tous faire la liste de plein d'initiatives positives qui sont financées à travers la réserve, mais ça suffit pas à dire que ce système, il s'est pas réformé par lui-même au bout d'un moment. C'est-à-dire que les députés qui ont créé des jurys citoyens, par exemple, pour dire on sort du soupçon de clientélisme en disant, voilà, c'est à vous, vous êtes les usagers, le rond-point, vous le connaissez, ce que vous évoquiez comme cas, décidez. Il y a quelques parlementaires, mais ils sont ultra minoritaires. C'est-à-dire, cette idée que, pour le coup, il y a eu des listes entières.
Il y a des institutions de
contrôle. Il y en a, ok.
Que la Cour des comptes fasse.
Non, mais on a l'impression que le système était vertueux. Le système, il était quand même très largement dévoyé. Que les sénateurs qui sont élus par les élus locaux soient eux-mêmes en train de reverser des dizaines de millions d'euros globalement à ces mêmes élus locaux, je suis désolé, ça pose un vrai problème démocratique.
Je voudrais qu'on pose cette question.
Bah oui, ce qu'on voit, ce qu'ont été les us et coutumes, effectivement, de ces parlementaires-là, il y a un vrai sujet. Je parle même pas de la réserve ministérielle.
Cette question conclusive. Vincent Trémollet, est-ce que ce projet de loi sur la confiance de la vie publique, est-ce que la majorité revoit ses ambitions à la baisse ou pas, à ce stade des débats?
Mais la majorité ne sait plus où elle en est de ce projet de loi, puisque c'est un projet de loi qui est né d'un accord électoral. Il faut quand même revenir au départ de l'histoire.
Avec
c'est
Bayrou,
François Bayrou qui vient en renfort d'Emmanuel Macron et qui, dans le mariage...
Vous voulez dire qu'ils n'en ont pas la conviction?
Ben je sais pas, je ne suis pas là pour sonder les reins et les cœurs, mais en tout cas, cette loi, depuis les encombres... Et c'est pour cela, je vais me répéter, que Emmanuel Macron et Édouard Philippe l'ont dit après la démission des députés du MoDem. Maintenant, c'est terminé. Il faut cesser la tyrannie de la transparence. Mais sauf qu'ils en ont profité. Et ça n'est pas eux qui l'ont provoqué. C'est une mécanique qui est lancée. Et cette mécanique, je pense, va polluer intégralement ce quinquennat, puisque on le voit avec la loi travail déjà. Muriel Pénicaud doit défendre une loi extrêmement difficile, avec en plus un soupçon derrière elle. Et donc, il va y en avoir.
Ça, c'est pas la faute des lois, c'est la faute de son comportement, c'est des soupçons.
Non, mais c'est la faute d'une atmosphère.
Il y a de la défiance, donc on va faire moins de contrôle. Parce
je vais être plus précis. Il y avait la jurisprudence Balladur, on démissionnait quand elle était mise en examen. Puis il y a eu la jurisprudence Sylvie Goulard, on démissionne quand il y a le début d'une information judiciaire. Donc, certains disent pourquoi Muriel Pénicaud ne démissionne pas.
Bientôt, il y aura la jurisprudence Twitter.
Voilà, et il y aura des papiers dans la presse. Et c'est ça que je veux dire. Et tout ça est absolument incohérent. Il y a quand même un exemple très éloquent. Si on regarde la jurisprudence Balladur, c'est un ancien ministre de la Culture, Renaud Dolnevap, qui a été condamné. Puis une fois qu'il a sa condamnation était terminée, il est revenu et il a été élu. Donc la morale n'existe pas. C'est une morale de façade, si vous voulez. Donc
moi,
je pense que ça va polluer ce quinquennat.
Est-ce que la majorité revoit ses ambitions à la baisse?
Enfin, j'ai pas ce sentiment. Moi, je me dis que ça s'inscrit dans quelque chose qui est un peu plus large, où il y a eu l'étape 1 après Cahuzac, création du PNF. On entendait Claude Bartolone parler de démocratie pas paradigme. Enfin, voilà, l'ère de la transparence, du soupçon. Moi, je pas le sentiment que depuis 2013, ce soit effectivement ce qu'on ait vécu. Après François Fillon, on peut en faire une grande victime de l'histoire. Enfin, globalement,
c'est pas l'objet.
Bah non, mais bon, au bout d'un moment, s'il y a des comportements, quand on voit le nombre d'affaires qui concernent, que ce soit Marine Le Pen au Parlement européen,
exemple,
que ce soit,
est-ce qu'il y a une revendication?
Au moment où il faut envoyer des signaux, c'est-à-dire que le
sur la réserve parlementaire,
on est totalement autiste.
Est-ce qu'on n'est pas dans la démagogie? Est-ce qu'il y a?
Non, mais la réserve,
est-ce que l'inconscient collectif français est hanté par l'idée qu'il faut supprimer la réserve parlementaire? Non, c'est quelque chose que l'on va donner en disant, regardez comme c'est de l'argent.
On peut choisir de se focaliser là-dessus, il y a quand même plein d'éléments positifs. J'invite chacun à aller regarder le détail, parce que là, on en a fait peut-être 10%.
Poursuivre le débat sur cette réforme de la vie politique dans les jours qui viennent, puisque le débat va se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Dans un instant, sur France Info, les coupes budgétaires. Emmanuel Macron casse-t-il son image de réformateur? Et puis sortir la Libye du chaos, c'est un défi pour l'Europe. Les informer, la suite après la météo.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Sébastien Léas à Météo France.
Demain matin, la pluie va revenir sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Au fil des heures, cette perturbation pluvieuse va gagner du terrain et l'après-midi, il va pleuvoir du nord de la Nouvelle-Aquitaine au bassin parisien et aux Hauts-de-France, jusqu'aux côtes de la Manche et au littoral breton. Plus à l'est, les nuages seront encore nombreux, mais des éclaircies filtreront. Le matin, du Berry aux frontières belges et l'après-midi, du plateau Lorrain aux Alpes. L'Alsace verra encore quelques averses passagères traverser le ciel demain. Autour de la Méditerranée, la journée sera encore très ensoleillée avec toujours Mistral et Tramontane qui souffleront fort. Sur les hauteurs de la Corse, quelques bourgeonnements pourraient donner naissance à des averses localement orageuses. L'ambiance sera encore plutôt fraîche avec des minimales variant de 10 à 20 degrés et des maximales atteignant 19 à 25 degrés en général avec jusqu'à 32 degrés autour de la Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Il est 20h30 au cœur des informés sur France Info. Toute l'info avec Emmanuel Langlois.
Le nombre de chômeurs en légère baisse le mois dernier, moins 0,3% d'après les statistiques de Pôle emploi et même moins 1% sur un an. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi qui travaillent un peu au cours du mois est en légère hausse, plus 0,6%, un peu plus sur un an. Signe d'une reprise bien fragile, Guillaume Gaven.
En juin, la France comptait donc près de 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé. C'est 10 900 de moins que le mois précédent. Si l'on ajoute ceux qui travaillent un peu au cours du mois, on arrive à un total de plus de 5,5 millions. De bons chiffres relatifs ce mois-ci qui arrivent après les mauvais chiffres du mois de mai. Alors, il faut prendre un peu de recul. Sur un an, la baisse est réelle, mais pas non plus fulgurante. Le nombre de chômeurs de catégorie A baisse de 1%, alors que le total, lui, est en hausse de 2%. Et même si l'on regarde de plus près ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, mais qui travaillent plus qu'un mi-temps, le chiffre explose, plus 12,8% sur un an. C'est l'intérim et les CDD courts qui se retrouvent dans cette catégorie. C'est le signe de la fragilité de la reprise. La France recrée des emplois, mais des emplois bien précaires encore.
Guillaume Gaven, et puis pour le troisième mois consécutif, l'INSEE annonce que le climat des affaires en France s'est amélioré en juillet, atteignant même un niveau inédit depuis 6 ans. L'embellie profite en particulier au secteur du commerce de gros. Les incendies dans le sud-est, près de 4000 hectares partis en fumée. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes attisées par des vents violents. En Corse et dans le sud-est donc, dans le Luberon, l'incendie de la Bastidone a parcouru 800 hectares. Les flammes ont fait 5 blessés parmi les pompiers, dont 2 gravement brûlés au visage et aux mains. La situation reste également délicate dans le Var où deux incendies sont en cours à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin. Quant au ministre de l'Intérieur, il est en Haute-Corse ce soir, Gérard Collomb, qui annonce la commande de 6 bombardiers d'eau d'H8 supplémentaires pour lutter contre les incendies de forêt. Il était un temps présenté comme un remède miracle contre l'alcoolisme. Nouveau revers pour le baclofène. L'agence du médicament interdit la prescription à haute dose de ce traitement. Une décision qui provoque la colère des spécialistes de l'addiction. Et puis il a pourtant fait l'objet de 2 grèves en un an. Le texte encadrant pour 5 ans les conditions d'emploi et d'exercice des hôtesses et stewards d'Air France a finalement été accepté par l'ensemble des syndicats de la compagnie. L'équipe de France masculine d'épée, sacrée championne du monde, les Bleus, champions olympiques en titre, ont battu la Suisse ce soir. 45 touches à 43 à Leipzig en Allemagne. L'équipe de France féminine, elle de sabre, décroche le bronze. Il est 20h33 sur France Info, les informés, suite et fin.
Les informés, Guillaume Caour.
La suite des informés sur France Info, oui, comme tous les soirs, jusqu'à 21h, oui. Avec Florence Berthoux, que vous entendez, qui est maire républicain du 5e arrondissement, présidente du groupe au Conseil de Paris et conseiller régional. Vincent Trémoller, rédacteur en chef des pages Débat Opinion du Figaro. Jonathan Boucher-Petersen, chef du service France de Libé. Et Jackie Isabello, communicant pour l'agence Coriolink. Et autant vous dire que c'est animé ce soir sur le plateau des informés. Les coupes budgétaires. Est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce que le président de la République casse son image de réformateur avec quelques coups de rabot, je vous l'ai rappelé. 850 millions d'euros de moins pour l'armée. 100 millions pour les allocations logement. Réduction du budget du secrétaire d'État pour l'égalité hommes-femmes. Est-ce que finalement, pour résorber le trou budgétaire, le gouvernement doit prendre toutes ces mesures en urgence? Est-ce que vraiment c'était nécessaire quand on voit la polémique et la baisse de popularité d'Emmanuel Macron? Vincent Trémollet.
Moi, je pense que ce à quoi on assiste, c'est l'explosion en vol de la martingale macronienne qui était le « en même temps ». C'est-à-dire qu'il a dit « je vais réformer, mais en même temps, je vais vous protéger, je vais vous aider à vous développer. On va faire des économies, mais on va investir. » Et puis, au fait, on a vu qu'à la fin, comme au foot, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Bah, en France, à la fin, c'est Bercy qui gagne, en tout cas sous Macron. Et donc, à chaque fois, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui va décider quel sera l'arbitrage et sera en défaveur des différentes institutions ou corporations dont vous avez parlé. Donc, c'est politiquement très préoccupant, je pense, pour Emmanuel Macron, parce que l'artifice, ou en tout cas l'ingéniosité de cette stratégie due en même temps, crée une bienveillance, je pense, dans l'opinion publique, qui est en train de s'étioler de façon spectaculaire. Alors, est-ce qu'il aurait dû afficher la couleur plus tôt? Peut-être que s'il l'avait affiché plus tôt, il n'aurait pas eu les résultats électoraux qu'il a eu à la présidentielle et aux législatives.
Jacques Isabello.
Je crois que sa cinématique, hein, donc la manière dont il a enchaîné les différents événements, cette cinématique, elle est mauvaise. Je suis pas persuadé qu'il ait perdu 10 points, ouais. Parce que il a annoncé des coupes budgétaires. Il a agi de manière disproportionnée. Il a tranché la tête du général de Villiers avec son adjoint, le caporal-chef Castaner, qui s'est permis de dire que le plus grand militaire de France était un poète revendicatif. Après, il vous a annoncé une petite mesure budgétaire. Il aurait commencé à mettre en place son programme de réduction budgétaire, d'économie, et conserver sa ligne après la sortie abracadabrantesque du fameux rapport de la Cour des comptes, peut-être que les gens se seraient dit on l'a élu pour ça, il nous annonce.
Mais là, est-ce qu'il va encore être possible de réformer brouillon. Après cela?
Mais de toute façon, en France, vous savez, derrière chaque niche fiscale, il y a un clébard qui veille. Donc, il y aura toujours de la contestation.
Inutiles, il n'y a même pas de grande réforme derrière.
Mais pour l'instant, effectivement, c'est assez brouillon. Je veux dire, s'il avait démarré uniquement
s'il y avait un grand dessin, peut-être qu'il y aurait une adhésion un peu plus profonde.
Mais là, c'est quand même
assez difficile à suivre.
Après, deuxième point, c'est que Macron n'a pas de poids lourd derrière lui. Donc aujourd'hui, il nous a dit « je ne vais pas beaucoup parler », mais tout est quand même revenu sur lui. Mmh. On est en permanence en train de le questionner. Et puis, dernier point en termes de communication, puisque c'est cet aspect-là que vous souhaitez chez moi. Il nous avait dit, attendez, je parlerai jamais. Hein. Vous verrez, moi, je vais pas me laisser avoir comme Hollande, je vais pas gesticuler. Il est allé nous faire une déclaration à Vélo Club en haut de je ne sais trop quel col. Donc, ça veut dire que cette posture jupitérienne, hein, la fameuse théorie de Pilan qu'il avait fait sienne, eh bien, il l'a sacrifiée, il l'a déchirée à la première occasion. Donc, il est brouillon.
C'est gâché ou pas? Est-ce qu'on peut réformer après ça?
Moi, je pense que l'enjeu, enfin, il est évidemment plus sur quel sera le contenu de la loi travail. Enfin, là, simplement, ça donne des indices, effectivement, de quelque chose qui est, encore une fois, pas
très
cohérent, pas très consistant.
Mais moi, je parle plus des coups de rabot qui font finalement beaucoup de
mécontents. Enfin, c'est une logique très comptable. Après, je n'ai pas l'impression que Bruno Le Maire ait poussé des cris d'orfraie quand l'administration de Bercy a fait ce genre d'arbitrage. Alors, à partir du moment où il confie Bercy à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit l'hémisphère gauche de Macron qui se donne à voir. Quoi. Il y a eu un choix politique objectif. Il est, de toute façon, convaincu, il était déjà convaincu à l'Élysée, que la souveraineté de la France se retrouve par la maîtrise des déficits. Enfin, on est quand même dans du Hollande un peu plus affirmé, hein, mais c'est à peu près la même logique. Simplement, le rapport de la Cour des comptes, lui, il décide d'en tenir compte, de mettre en scène la dramaturgie, l'urgence A. Mais le côté, on a fait un audit, la situation est plus compliquée que prévu, faut qu'on fasse des économies qu'on n'avait pas annoncées. C'est un schéma qu'on a bien connu dans le précédent quinquennat. Au sortir de l'été, on peut arriver en mauvais état.
Il y a quand même une faute de départ originelle, qui est le discours de politique générale d'Edouard Philippe, hein, où dans ce discours de politique générale, n'apparaissent pas un certain nombre de promesses fiscales d'Emmanuel Macron, et qui donc il y a un retournement trois jours après. Et après, on cherche de l'argent. Et comme on cherche de l'argent, on va en prendre un peu aux militaires, un peu ici, un peu là. Et c'est de là que viennent les couacs en série.
On donne 3 milliards à l'ISF et on cherche 4 milliards pour boucler le budget.
Et voilà. Et donc là, on est...
Moment,
on
les
est
Français
et on retrouve 1,2 milliard pour l'armée.
Et depuis cet ébranlement budgétaire, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas encore pris pied.
Enfin, le Premier ministre, il y a un adage qui est en train de se vérifier une fois de plus, c'est qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Et le fameux « en même temps », on voit les limites du système. Réformer la France, il faut faire des réformes structurelles. Donc évidemment, ça va se faire dans la douleur. Mais là, ce ne sont pas des réformes. Et il y a surtout ce qui est en jeu, c'est moins le niveau des dépenses, même si le niveau des économies qui sont demandées, que la question de la cohérence du discours politique. Un seul exemple, le budget de la défense. Le président de la République dit « je vais monter, je m'engage à ce que le budget monte à 2%, accessoirement d'ailleurs, il fixe le cap après la fin de son quinquennat, et dans le même temps, il fait porter 20% des économies à réaliser avant la fin de l'année à ce même ministère. Donc où est la cohérence? C'est la même chose sur les droits des femmes, etc. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de crédibilité et de cohérence de la parole du chef de l'État par rapport à la ligne. C'est quoi la ligne? C'est exactement ce que vous disiez. Et il va devoir vraiment fixer en fait, la ligne.
La question, c'est savoir si l'épisode avec le général de Villiers va forger la grille de lecture du quinquennat. C'est-à-dire que dans cet épisode, il y a un acte d'autorité qui est fondé sur des raisons budgétaires. Et donc, est-ce que toutes les catégories, je pense aussi à l'université, parce que ça commence à monter, il y avait eu des promesses sur l'université, et puis là, on leur demande de faire des économies. Est-ce que toutes les catégories de la population vont se dire, on va être traité comme ce général? Et je ne sais pas si ce sera ça, mais c'est vraiment le danger aujourd'hui pour le président de la République.
Il y a un enjeu très important aussi dans l'actualité aujourd'hui, nous allons en parler dans les informés, c'est la crise libyenne, avec toutes ses conséquences, notamment migratoires. Pour cela, aujourd'hui, Emmanuel Macron avait rendez-vous avec Bono. Non, pas du tout. Ça, c'est encore autre chose. C'était pas pour YouTube. Il avait rendez-vous avec deux leaders libyens et on y revient dans les informés dans un instant. Il est 20h40, le rappel de l'actu, Emmanuel Langlois.
Les incendies en Corse et dans le sud-est qui continuent, près de 4000 hectares déjà partis en fumée. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes attisées par des vents violents. La situation reste notamment délicate dans le Var, où deux incendies sont en cours à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin. L'Italie envoie un Canadair en renfort. L'autoroute A51 est-elle à nouveau coupée entre Pertuis dans le Vaucluse et Manosque dans les Alpes de Haute-Provence en raison de l'incendie de la Bastidone. L'A51 qui avait déjà été coupée hier soir mais rouverte ce matin. Le chômage repart à la baisse en France métropolitaine. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 0,3%, soit 10 900 inscrits de moins à Pôle emploi. En pleine polémique sur la baisse des aides au logement, le gouvernement enfonce le clou en dénonçant un système pervers dont il annonce une réforme globale à l'automne. Il affirme que c'est le contrat le plus important de son histoire. L'éditeur de logiciels industriels Dassault Systèmes a conclu un accord avec Boeing afin de moderniser toute la chaîne de production de l'avionneur américain. Et puis l'humanité vivra à crédit à partir du 2 août et jusqu'au 31 décembre. Elle aura consommé ce jour-là la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. C'est ce qu'affirme l'ONG WWF.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info, Jackie Isabello, Jonathan Boucher-Petersen, Vincent Trémollet et Florence Berthoux avec cet enjeu, ce défi pour l'Europe, sortir du chaos libyen. Et c'est l'un des défis aussi pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui a réuni aujourd'hui deux personnes qui, fondamentalement, ne peuvent pas s'encadrer. Fayez Sarraj, chef du gouvernement d'accord national libyen, et Khalifa Haftar, qui lui est maréchal, qui est très puissant à l'est du pays et qui conteste depuis le début l'autorité de l'autre homme, Fayez Sarraj. Ils ont décidé ensemble aujourd'hui en région parisienne un cessez-le-feu et des élections présidentielles en 2018. Alors on parle de cela parce que finalement c'est un enjeu pour la Libye, c'est un enjeu pour la région, mais c'est aussi un enjeu pour l'Europe et pour la France. Florence Berthou.
Là, pour le coup, non, mais je trouve que c'est une initiative qui est une initiative positive. Je veux dire qu'à un moment donné, le chef de l'État contribue à ce que deux ennemis intimes arrivent au moins à parler, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Haftar et Sarraj n'étaient pas vraiment faits pour s'entendre entre celui qui est l'homme de l'Ouest, l'homme de l'Est, celui qui est président du gouvernement installé, entre guillemets, légal, et puis celui qui est quand même prêt... des salafistes, le militaire qui a la haute main sur un certain nombre d'ailleurs de réserves pétrolières. Donc derrière, ce qui est en jeu, c'est évidemment la paix dans toute cette zone absolument capitale.
Pourquoi est-ce qu'on a attendu 6 ans? Parce que finalement, ça fait 6 ans hein, que la crise libyenne a commencé depuis la chute du régime Kadhafi. Ces deux hommes, on a réussi à les réunir seulement une fois par le passé. Là, c'est seulement la deuxième fois. Est-ce que finalement le gouvernement et est-ce que François Hollande, par le passé, ont vraiment pris le dossier à bras le corps ou c'est Emmanuel Macron
passer au second plan. Enfin, on voit évidemment que la question russe, la question syrienne, en tout cas tout cet axe-là a pris beaucoup de place. Que ce soit d'abord les Russes avec la Crimée quand même qui a été un sujet de tension très proche de nous et très intense. Que ce soit après effectivement la question de Bachar el-Assad, de l'OI qui a devenu la priorité absolue. Donc effectivement, il y a eu et là c'est encore une fois c'est l'urgence migratoire, les appels à l'aide de l'Italie qui fait que qu'on reprend le taureau par les cornes. Là, après, c'est a priori louable hein, de s'inscrire dans le processus de l'ONU, de dire je mets le poids politique dont je peux être crédité pour faire avancer cette cause. Hein. Après, c'est effectivement le gagnant quand même dans cette histoire à court terme, c'est Haftar, a priori le maréchal, qui se retrouve clairement légitimé à la table de négociation comme un acteur. Bon, c'est un acteur de fait.
Parce qu'on le regardait un peu en se bouchant le nez.
Hein, il continue à avoir du mal à imaginer une Libye où l'armée est sous une autorité du pouvoir civil, par exemple. Enfin, c'est quand même un enjeu absolument majeur. C'est ce qui fait
l'enjeu, c'est de ne pas laisser les militaires prendre le pouvoir. C'est ça.
Voilà, c'est un enjeu qui est tout sauf mineur. Après, on se rend compte on peut imaginer la sincérité d'Emmanuel Macron. Après, c'est sûrement le fait que 80% des migrants qui arrivent en Europe viennent aujourd'hui par la Libye, qui est la passoire absolue. On se rend compte que c'est aussi un enjeu national, c'est un enjeu de préoccupation un petit peu égoïste. Hein. Donc évidemment, il faut que les Libyens puissent en profiter. Mais c'est d'abord pour essayer de faire avancer un peu la question de cette maîtrise ou encadrement des flux migratoires qui est d'abord une question nationale dans beaucoup de pays en Europe.
Oui, et puis les dimensions géostratégiques. Mais les annonces qui ont été faites aujourd'hui, elles ne sont pas innovantes. Hein. C'est juste les accords de Skhirat de 2015. Hein. Les élections, elles sont engagées, elles ont été signées par tout le monde. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir si Emmanuel Macron a bien pris le taureau par les cornes et notamment la relation qu'il peut avoir avec les Russes, hein, puisque la relation qui s'installe entre l'Algérie et puis celui qui est le plus important dans la région, l'Égypte, va passer par une bonne relation avec la Russie, puisque la Russie équipe militairement ces pays, l'Égypte et puis la Libye. Donc on va voir si Emmanuel Macron va gesticuler à nouveau, comme il a gesticulé avec Vladimir Poutine à Versailles lorsqu'il lui a fait tant de reproches, parce que s'il n'arrive pas à impliquer totalement les Russes, on n'arrivera pas à en sortir. Alors, vous rappelez que la Libye, après la Tunisie, la Libye, ça a été le deuxième pays à enclencher ces grands printemps arabes. Aujourd'hui, c'est une réunion d'affichage, il n'en sortira absolument rien. Ils veulent réaffirmer la position de la
mais c'est important, la
position de la communauté internationale, elle est importante. On soutient Sarraj. Haftar est pas si puissant que ça, hein, parce que il est quand même sous la maîtrise des Égyptiens.
Donc, Sarraj,
et puis il a tout un tas de
d'accord national.
Il a tout un tas de peuplades et de tribus qui contrôlent aussi son action. Alors il est assez infréquentable parce que il considère que le militaire lui doit contrôler le civil à l'inverse de ce qui se passe chez nous. Mais c'est avant tout de remettre la voix de la France dans ce processus qui donne une place énorme à la Russie et dont les Américains se sont un petit peu retirés et on sent bien que jusque-là, ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Je vous rappelle juste que quand même, un des conseillers de Trump, il y a 2 ou 3 mois, nous a dit « c'est pas compliqué, hein, on va le faire à l'américaine, on va couper la Libye en 3 et puis tout ira bien ». Et puis il a fallu que les gens tirent la sonnette d'alarme en disant « non, ça ne va pas du tout se passer comme ça parce que là, on va repartir sur une,
ouais, sur une nouvelle guerre ». C'était un rendez-vous important aujourd'hui entre ces deux hommes? Ou pas.
Oui, la seule difficulté devant laquelle on est, c'est de savoir si l'État libyen, qui est un État fragile, qui est fondé sur 3 régions, peut retrouver son unité politique. Et en fait, on se retrouve exactement devant la même situation qu'en Irak. C'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de dictateurs sanguinaires qui, cyniquement, étaient des points d'équilibre pour l'Europe. Et ça a été remplacé par un chaos que l'on est incapable de maîtriser. Donc là, toutes les tentatives que fait Emmanuel Macron, que peut faire l'Europe ou que peut faire l'Occident, notamment à cause de la crise migratoire et aussi du foyer salafiste, visent à tenter de créer une illusion au moins d'unité et de formes politiques qui pourraient aider ensuite à la fois à remettre un peu d'ordre dans le pays, à empêcher que les migrants arrivent traversent le Sahel et aillent jusqu'en Libye. Peut-être que c'était une proposition de Bernard Cazeneuve à l'époque quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il y ait des hotspots là-bas pour qu'on puisse... pour les réfugiés, pour savoir qui est vraiment réfugié, qui est migrant économique. Et quand, en fait, quand ils sont sur les côtes européennes, j'aime pas ce mot de tri, donc je sais pas comment ces vérifications ne peuvent pas être faites. Donc voilà, il y a derrière une volonté de refaire de la Libye un point d'équilibre, à mon avis en se voilant les yeux sur celui qui pourrait être le chef de cette unité politique, mais elle est quand même difficile à restaurer, parce que ces modèles de pays tels que l'Irak de Saddam ou la Libye de Kadhafi, c'est un modèle que les printemps arabes ou d'autres pour ça, ouais, la guerre ont fait voler en éclats. Est-ce qu'on peut y revenir ou est-ce qu'il y aura autre chose?
Et la question religieuse est très importante, parce que cette espèce d'arc, c'est un arc sunnite affirmé qui est très puissant, et on sait très bien que dès qu'on touche à la question religieuse, eh ben c'est explosif dans ces pays-là.
En fait, on a envie de s'enthousiasmer sur ce type de rencontre parce que finalement, ça donne un signal. Mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas ça qui va solutionner.
Et puis, on va peut-être essayer de faire oublier qu'on a un peu créé la panique. On ne reviendra pas sur cette affaire en Libye, puisque l'intervention qui avait été la nôtre en dehors du mandat qui nous avait été confié. En tout cas, il essaye de remettre la voix de la France dans cette région-là, et elle n'était pas très importante jusque-là.
Au-delà de ça, je pense que c'est quand même très important d'instaurer, sans, comme vous le disiez, se voiler la face, mais une dynamique de négociation. Parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais on est à un moment donné à un quasi-point de non-retour si on n'est pas capable de réintroduire cette dynamique de négociation entre deux fractions qui ne se parlent pas. Bon, alors ça suffira pas pour réduire l'hémorragie des flux migratoires, évidemment. Mais moi, je pense que c'est vraiment un préalable aujourd'hui.
On va y revenir dans un instant, notamment avec peut-être cette part d'égoïsme en nous, de se préoccuper de la Libye parce qu'il y a avant tout une crise migratoire. C'est dans le débat des informés de France Info. Il est 20h50. Le rappel de l'actualité, Manuel Langlois.
Calais, incendie dans le sud-est et encore dans le Luberon. L'incendie de la Bastidonne a déjà parcouru 800 hectares de végétation. Les flammes ont fait 5 blessés parmi les pompiers, dont 2 gravement brûlés au visage et aux mains. L'autoroute A51 est à nouveau coupée ce soir. Près de 4000 hectares ont été détruits au total. Des feux attisés encore ce soir par des vents violents. Après une hausse au mois de mai, le nombre de chômeurs est reparti en légère baisse en juin. Moins 10 900, soit moins 0,3%. Il y avait donc le mois dernier en France métropolitaine 3 480 000 demandeurs d'emploi. Emmanuel Macron salue leur courage historique. Les deux frères ennemis libyens, le chef du gouvernement de Tripoli et l'homme fort de l'Est de la Libye, se sont mis d'accord sur des élections au printemps au cours d'une rencontre à Saint-Cloud près de Paris, sous l'égide du président français. Le président du Sénat, Gérard Larcher, lui propose la nomination de Michel Mercier au Conseil constitutionnel, un proche de François Bayrou. L'ancien garde des Sceaux est âgé de 70 ans, actuellement sénateur du Rhône. Il remplacera rue Montpensier Nicole Belloubet, nommé ministre de la Justice. Et puis Charlotte Bonnet, qualifiée pour la finale du 200 mètres aux Mondiaux de natation de Budapest en Hongrie. La Française réalise un chrono de 1,56,28. Elle termine 7e des demi-finales, synonyme donc de qualification.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Sortir du chaos libyen, un défi pour l'Europe, c'est dans les informés de France Info. C'est un enjeu dans la régulation des flux migratoires. et dans la lutte contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a dit Emmanuel Macron, le président de la République, il y a quelques heures.
Éradiquer le trafic humain qui nourrit les voies de la migration, qui fait qu'aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de migrants sont en Libye, ce qui déstabilise profondément le pays, ce qui déstabilise l'Europe et ce qui nourrit le trafic dont le seul bénéficiaire aujourd'hui sont les mouvements terroristes eux-mêmes.
Jonathan Boucher-Peterson, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que sans un État libyen fort, on n'arrivera pas à résoudre le problème.
Oui, c'est un peu, mais après, on ne peut pas attendre qu'il y ait un État fort pour résoudre le problème, pour s'atteler à la tâche. C'est ce genre de question qui est compliquée. On a l'impression finalement que c'est des toutes choses égales par ailleurs, mais c'est des scènes qu'on voit sur le Proche-Orient depuis très longtemps. Hein. Donc l'idée qu'il faut rassembler les gens pour qu'il y ait effectivement ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire maintenir vivant l'idée que les gens se parlent, parce que si les gens ne se parlent pas, on peut être sûr que le statu quo va dégénérer. Non, après, il y a eu des mesures. Quand on dit que là, c'est la question des migrants quand même qui remet cette question d'actualité sur la scène européenne, le chiffre, c'est 86 000, là, je regarde, les 86 000 depuis le début de l'année qui sont arrivés en Italie par ce biais-là, donc 80% à peu près des migrants répertoriés qui arrivent aujourd'hui en Europe.
86 000 qui arrivent et qui passent par la Libye.
Voilà, ouais. 80% passent par la Libye parce qu'ils savent qu'effectivement cet état de chaos près. Et le fait que les trafics sont
mais qui ne sont pas tous libyens.
Non, qui ne sont pas du tout tous libyens, loin de là. Ce que disait Emmanuel Macron avec les
quelques centaines de milliers. Qui ont bien saisi qu'il y avait en tout cas un accès par là.
Une brèche hallucinante. Il y a une décision qui a été prise.
Parce que la route des Balkans est fermée.
Des décisions très concrètes qui sont prises, qui paraissent dérisoires, mais c'est-à-dire de limiter l'importation en Libye de canaux pneumatiques et de moteurs hors bord.
On en est là. C'est vrai que ça paraît dérisoire.
Donc on est pour le coup, c'est vraiment des mesures de bout de chandelle là-dessus. On peut pas s'empêcher de repenser quand même sur la question des migrants à la façon dont on a géré quand le mot quota ou le côté que chaque pays prennent sa part quand ce débat a été sur la table et qu'on a abouti quelques mois ou quelques années plus tard à cet accord avec Erdogan qui était quand même assez honteux de dire on verse 3 milliards mais vous en gardez 1,5 million, enfin je sais plus quels sont les chiffres, en Jordanie, en Turquie, voilà, on est sur des chiffres qui sont proprement hallucinants, alors que peut-être que je parle sous le contrôle, mais en France, on a dû en accueillir peut-être 15, 20 000 maximum, et que pourtant, on a des situations aussi extrêmes qu'à Calais ou à Grande-Synthe. Donc c'est vrai que cette question, elle est très complexe, que ça suscite beaucoup d'égoïsmes nationaux. On se rend bien compte que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, la réponse, elle ne peut être qu'européenne. C'est la solution, c'est aussi le problème.
Et beaucoup plus largement, parce que c'est vrai que d'un point de vue des opinions publiques, tout est assez insupportable. C'est le musée des horreurs, trafic d'êtres humains, esclavage, trafic divers...
Islamique qui est implanté, Daesh qui est implanté aussi.
Et des gens qui sont effrayés par ces afflux de réfugiés économiques, de migrants, quelle que soit l'appellation. Et puis on voit bien que la solution, elle répond à des enjeux de géopolitique gigantesques. C'est-à-dire que si les Américains et les Russes ne se mettent pas d'accord, alors qu'on a connu des années de guerre assez atroces en Syrie, la solution...
Mais c'est vrai que ce que vous dites...
Un début de solution ne pourra pas arriver.
Le conflit au Proche-Orient paraissait déjà insurmontable Il y a quelques années, mais aujourd'hui, la situation dans la région paraît, elle, encore plus insurmontable avec des jeux diplomatiques, géopolitiques.
Ça se déplace.
Et elle révèle la faiblesse de l'Europe. Moi, j'ai en tête une phrase d'Hubert Védrine, c'était dans le Figaro, au début de ce qu'on appelait la crise des migrants, disant « les opinions publiques ont l'impression qu'on ne maîtrise rien ». Et je pense que cette impression s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui et qu'un certain nombre de symboles, comme Calais en est un, fait que les gens se disent plus ou moins, de toute façon, on nous dit qu'on va en accueillir 100, mais qu'après, ceux qui ne sont pas bénéficient pas de droit d'asile entreront chez eux. Et en fait, non, tout terminera comme Calais. Et pourquoi ? Parce que le politique est complètement désemparé face à ce sujet. Donc l'initiative qu'a pris Emmanuel Macron... Et pour le moment fragile et timide, mais je pense qu'il vise juste, parce que moi je ne sais pas si on peut parler d'égoïsme, c'est une inquiétude légitime que de se dire, il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée, il y a des gens qui vont venir, est-ce qu'on peut les accueillir, est-ce qu'on a l'argent, c'est tout
à fait... Mais est-ce qu'on s'y intéresserait si ces gens-là n'arrivaient pas en Europe ?
Non, mais la diplomatie... En général, n'est pas guidé par la générosité, mais par l'intérêt du pays qui pratique cette diplomatie.
C'est la responsabilité aussi des élus sur ces questions-là. Tout dépend le cadre qu'on décide de mettre au débat public aussi. Et clairement, on voit bien qu'il y a des forces de tension pour faire de ces sujets à partir de chiffres qui sont évidemment, il y a la situation de Calais, mais si on parle de 15, 20 000, même 30 000 personnes à l'échelle de la France, je veux bien qu'on utilise les mots de submersion, enfin tout ce qu'on veut, ce qu'on entend à longueur de temps, c'est pas l'enjeu, enfin on n'est pas à la hauteur. Et c'est vrai, quand on compare ça avec le début de votre phrase, c'est-à-dire des gens qui meurent dans la Méditerranée, c'est pas qu'il y a une partie de la solution qui est, enfin en tout cas il y a.
Non
y a...
mais tout dans cette histoire est incontrôlé.
Pas sûr que chacun ait pris sa
part.
Quoi.
Tout arrive à des
Je le dis pas souvent, mais écoutons le pape François sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il a parfois des appels à l'humanité. Qui
oui,
sont
mais le pape François, il tient des paroles de pape, pas d'homme politique.
Oui, mais c'est
Florence Bergeau, on vous entend pas sur ce sujet-là, alors que vous êtes quand même élu de Paris, et à Paris, on sait qu'il y a beaucoup de camps aussi de migrants.
Je suis déjà intervenu d'ailleurs sur la question du fameux camp migrant.
Cette réunion aujourd'hui qui a eu lieu entre les deux personnalités importantes libyennes sous l'égide de l'Élysée, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous intéresse?
C'est quelque chose qui me touche, c'est non seulement ça me touche, j'étais la première à dire que je considérais que c'était un signe qui était très fort, mais un signe qui doit être suivi d'actes. Donc on voit bien que la décision ou la manière de progresser, elle dépend à la fois de la capacité à un moment donné à co-construire une Europe forte qui ne peut être aussi, qui passe par le couple franco-allemand, c'est comme ça aussi, et la capacité des États, qui sont les États en bordure de Méditerranée aussi, à gérer aussi pour partie, et c'est ça qui est terrible, à gérer pour partie, eux aussi, les flux migratoires. On parlait tout à l'heure de ces fameuses antennes qu'on n'appelait pas comme ça, mais où on a essayé d'inciter, ce qui était terrible et très compliqué, les pays à faire la part, si j'ose dire, entre les migrants qui étaient les migrants politiques et puis ceux qui étaient économiques.
Et là où c'est catastrophique, c'est Hervé Le Bras le dit dans son dernier livre, c'est que les migrants économiques qui viennent d'Afrique noire sont des migrants qui sont de la classe moyenne, c'est-à-dire que la classe la plus pauvre n'a pas les moyens de se payer. C'est une classe moyenne qui vient en Europe et qui fait que ces pays-là sont débarrassés de leur classe moyenne. Donc c'est vrai que c'est un plan très, c'est vraiment de la haute politique. Celui qui parviendra à faire ça sera magistral. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé, et notamment Védrine, qui a un plan assez précis, assez concret et assez réaliste.
Et nous verrons donc dans les mois, les années qui viennent, si l'initiative d'Emmanuel Macron peut porter ses fruits. Merci à tous les quatre d'être venus dans les informés de France Info. Très bonne soirée à tous. On se retrouvera donc demain à partir de 20h pour notre rendez-vous, même en été.